France Musique. Les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Christian Ivaldi, je suis né le 2 septembre 1938, je suis pianiste, je suis enseignant et aussi mélomane et amateur d'art.
Assez souvent on en arrive à l'enseignement parce que c'est aussi cette façon de transmettre et d'avoir envie d'explorer son propre art, parce que c'est une forme de questionnement aussi que d'enseigner, c'est se remettre soi-même en question. Christian Ivaldi, vous avez été professeur et vous l'êtes encore. Ça commence en 1969, rue de Madrid, professeur de lecture à vue, déchiffrage.
C'était après mai 68, hein, la relation à l'enseignement, et même entre enseignants et enseignés, a changé. Je crois que c'était un des résultats de mai 68 les plus persistants, je pense. Et donc, mais je m'étais déjà présenté deux fois, j'ai été nommé la troisième fois. C'était très spécial à l'époque. La nomination, c'était insensé, ça n'a rien à voir. Maintenant, on donne un cours devant la commission, hein, au moins on montre ce qu'on peut faire. À l'époque, c'était pas du tout ça, c'était sur réputation. On savait que j'étais très bon lecteur, on m'a nommé prof de déchiffrage. J'avoue que la première année, je sais pas ce que j'ai appris aux étudiants, mais j'étais un peu ahuri de voir que des gens de 17 ans pouvaient pas aligner de notes. J'ai pas dû être très bon. Bon, après, j'ai appris les codes un peu, et je me suis attaché à faire ce qu'il fallait sur ce plan-là. Mais pour moi, la classe de lecture, c'était surtout une classe de découverte musicale. C'est ça qui m'intéressait. J'avais affaire à des jeunes qui connaissaient pas grand chose, qui avaient encore une fois un blocage quelquefois sur la musique vocale, qui est quand même la moitié de la plus belle musique qui était écrite, si on cumule l'opéra, œuvre religieuse, leader, bon, mélodie. Et c'est vraiment ce qui m'intéressait, enfin, Et de même que j'ai toujours aimé le travail qui mélange les seniors et les juniors, enfin. Comme on le faisait à Marlborough, comme Serkin le faisait à Marlborough. Et chaque fois que j'ai eu l'occasion de faire ça, j'ai toujours aimé ça. Et on fait des deux pianos 8 mains avec les jeunes qui sont là, et c'est formidable. J'ai toujours considéré que le rôle d'un enseignant, et je crois que les enseignants actuels des classes de piano concertant en sont conscients beaucoup plus que ne l'étaient les enseignants à mon époque, c'est très difficile pour un pianiste, même de talent, de se positionner en début de carrière. Et je crois que l'idée pour un pianiste de mettre toutes les chances de son côté, c'est d'être le plus disponible possible, de pas avoir de rejet, un peu ce que j'ai fait. Et je crois que ça a beaucoup changé par rapport à ça. Si vous prenez les enseignants pianistes à l'heure actuelle au CNSM, des gens comme Claire Désert, Marie-Joseph Jude, Franck Bralet, Emmanuel Strosser, Roger Muraro, bon, certains d'entre eux font au moins une moitié de leur carrière en musique de chambre, ce qui n'était pas du tout le cas à mon époque, hein, pas du tout. Mais si je reviens à ce qu'était le conservatoire quand je suis entré comme enseignant en 69, c'était quand même une école qui était très en autarcie, très repliée sur elle-même. La musique contemporaine, encore une fois, c'était les prix de Rome. On jouait beaucoup. Il n'y avait pas de passerelle vers l'extérieur. Le directeur était Raymond Galland-Membrun, qui était un très bon musicien, qui avait fait une carrière de violoniste aussi. Mais rapidement, avec certains copains profs aussi, on a commencé à se réunir et à chercher à avoir des idées de réformes éventuelles. Ça va pas. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça dans tel domaine? Alors il y avait, on abordait tout, écriture, clavecin, piano, instruments à cordes, danse même. On se réunissait régulièrement chez l'un, chez l'autre. Le directeur l'a su rapidement. C'était assez difficile parce que la majorité du corps professoral quand même était très respectueux de la direction et ne remettait pas en question ce qui se passait. Et nous, on avait vraiment envie de faire bouger les choses. On est même allé jusqu'à rencontrer Jean Maheu, qui à l'époque était directeur de la musique, sans en référer au directeur. Ça a été une période vraiment difficile, attention. Mais vraiment, je me disais, quand j'avais la classe de musique de chambre, et je voyais les instrumentistes à cordes venir à la classe, qui faisaient des sessions d'orchestre avec des gens comme Boulez, je me disais, mais est-ce qu'ils sont conscients de la chance qu'ils ont? Enfin, ce que j'avais connu, moi, était tellement éloigné de ce type de partage, d'échange. C'était magnifique, oui.
Quand nous arrivons à cette classe de musique de chambre, on est en 1986, il s'est passé presque 20 ans d'enseignement de déchiffrage et de lecture à vue. Au bout de ces 20 années-là, est-ce que il y a, Christian Ivaldi, une forme peut-être de frustration aussi, d'une matière où j'imagine la lecture à vue, c'est pas quelque chose où on approfondit d'une certaine façon, non?
Vous avez tout à fait raison, tout à fait raison. Et ça donnait d'ailleurs un aspect psychologique un peu difficile avec les pianistes, parce que les pianistes étaient quelquefois en première et même quelquefois deuxième année, dans une restructuration technique souvent, quand il y avait des problèmes auxquels l'enseignant s'attaquait, des choses qui n'étaient pas encore en place. Et le fait de se retrouver devant une partition nouvelle où il fallait abandonner, ils avaient l'impression de régresser. C'était un des aspects difficiles de la classe, en effet. Mais cette accession à la classe de musique de chambre en 86, ça a été aussi effectivement quelque chose de merveilleux, parce que à l'origine, c'était la classe de Jacques Février, et la personne qui a succédé à Jacques, c'est Geneviève Joie, avec qui j'étais très lié, à qui j'ai moi-même succédé en 86, et après m'a succédé Claire Désert, avec qui je suis lié, et quelqu'un que j'aime infiniment. Donc il y a une espèce de filiation assez étonnante là.
Si on parle de filiation, c'est intéressant, Christian Ivaldi, parce qu'on parle des écoles, l'école française du piano, voilà, par exemple, vous, dans vos professeurs, vous avez certains de vos professeurs qui étaient élèves de Marguerite Long, vous en aviez d'autres, par exemple, si je pense à Simone Plécossade, qui était, elle, plutôt élève de Cortot. Vous, de toutes ces ramifications-là, Christian Ivaldi, quelle importance ça? Qu'est-ce que vous en gardez? Qu'est-ce que vous en enseignez?
Je crois qu'à l'époque, la notion de piano français était un peu péjoratif, c'était surtout du piano petit doigt articulé. Et à l'heure actuelle, maintenant, évidemment, avec tous les artistes qui voyagent, on va plus dire l'école russe ou il y a une espèce d'interactivité étonnante. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était Marguerite Long était quelqu'un qu'on commençait déjà à remettre en question. Enfin, Jacques Février. Par exemple, quand on jouait une œuvre chez lui, il vous attrapait le bras et il vous remuait le bras pour vérifier que le bras était vraiment souple. On devenait fou parce qu'on pouvait plus faire une note, c'était infernal. Et ça aussi, j'ai compris des années après ce que ça voulait dire. Enfin, on était un peu, je me souviens que Louis Clavius Marius, au début, me disait, tu as l'air d'un poulet ficelé. J'avais les coudes collés au corps. Évidemment, il n'y avait pas la souplesse et on peut pas trouver le son, la qualité du son, comme ça. Je le fais quelquefois avec des étudiants, je dis, vas-y, bouge mon bras pour leur montrer que je garde le contact avec le clavier, même avec même par exemple dans un crescendo, je vois des pianistes encore qui serrent les coudes curieusement, alors que c'est le contraire qu'il faut faire en fait. Pour faire un crescendo, il faut libérer le bras pour que ça reste beau et vraiment que le phrasé soit naturel, soit vocal en fait.
Vous avez eu, vous, des moments dans votre vie où vous avez souffert de dystonie, de mots divers?
Dystonie, non, heureusement. Un peu, quelquefois, il a pu arriver des moments un peu de surmenage, parce que j'étais quand même dans un stress assez grand, avec une telle variété de répertoire. Il y avait une pile de piano, de partitions sur le piano en permanence, et dès qu'un concert était fini, je me précipitais sur la partition suivante. Et puis, notamment, je me souviens, le domaine musical, Boulez a obtenu, en mettant en place l'intercontemporain, un nombre de répétitions satisfaisant. Au domaine musical, on manquait toujours d'une ou deux répétitions, on arrivait vraiment sur scène. Tout ça, c'était des choses, en effet, qui pouvaient créer, si on n'était pas attentif, une tension physique, musculaire, bien sûr.
De Christian Ivaldi.
Vous avez dans cet enseignement une façon, on le disait, de se remettre en question. Je me disais également, Christian Ivaldi, que quand il y a des choses qu'on fait avec naturel et de façon spontanée, c'est pas si facile de les enseigner toujours.
Bon, il y a deux plans. Il y a ce qu'on fait, comme vous le précisez, un peu intuitivement, mais il y a aussi ce qu'on construit, ce qu'on analyse, ce qu'on projette vraiment. Et ça peut être un peu un danger de routine, c'est-à-dire que quand vous jouez le quintet de la truite une cinquantaine de fois, vous avez un peu acquis des certitudes. S'il y a des jeunes, par exemple, dans l'équipe, il peut y avoir, s'ils ont l'élan de se positionner par rapport à des aînés, c'est une remise en question qui est salutaire pour nous, parce qu'on a peut-être un peu trop de certitudes.
Et on enseigne par l'exemple aussi, Christian Ivaldi, vous montrez beaucoup aux élèves?
Moi, je suis quelqu'un qui ne déteste pas se mettre un peu au piano, notamment pour montrer cette espèce de souplesse du bras, du phrasé, aussi par rapport à la pédale. Parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de pianistes qui mettent la pédale intelligemment, vraiment. Et je me souviens d'avoir lu un livre d'Yvonne Lefébure, parce que j'allais tout le temps à la médiathèque quand j'étais prof. C'était génial, la médiathèque du concertage, pour lire des documents. Et un bouquin d'Yvonne Lefébure sur le travail du piano, où elle disait une phrase que sans le savoir, je répétais depuis quelques années: le pied droit, ça doit être comme une troisième main. J'étais très fier parce que je lis ça chez Lefébure, et c'est une chose qui m'arrivait de dire en classe.
Et de faire écouter d'autres répertoires aussi. Est-ce que ça participe de l'enseignement que de faire écouter à ses élèves des grands chanteurs pour nourrir?
Moi, j'estime que oui. C'est pour ça que je vous dis, je faisais régulièrement des séances chez moi d'écoute. Et c'était pas du piano, on écoutait tout sauf du piano. Et François Frédérigui, qui est très affectueux, qui est très fidèle et adorable, me rappelle toujours la première classe où parce que j'ai été gâté en point de vue élève. La première classe, je savais qu'il était très bon lecteur, je l'avais déjà entendu déchiffrer, et je lui ai collé la première scène du Crépuscule, du deuxième acte du Crépuscule des Dieux, la scène entre Hagen et Alberich. Et ça, il s'en est sorti magnifiquement d'ailleurs. J'ai déclenché, je crois, un peu chez lui, des goûts vers des compositeurs qu'il connaissait pas trop à l'époque. Wagner, Strauss.
Vous vous parlez d'interprète, quand je repense au mot accompagnateur qu'on a pu évoquer, ça et là, on peut être d'accord, pas d'accord avec le fait d'accompagner. Il y a aussi des interprètes pour qui le mot interprète est compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Christian Rivaldi ?
Oui, c'est-à-dire que les natures des individus font qu'ils sont plus ou moins, vont plus ou moins trop loin ou pas assez loin. Moi, je suis plutôt genre Robert Mitchum, quoi. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le jeu. Bon, il se passe quelque chose, j'espère quand même, mais enfin bon. Alors qu'une Bette Davis, ça y est, c'est reparti sur le cinéma, va en faire des tonnes dans certains films. Hein. Bon. Il y a des gens qu'il faut qu'il... Maria Cazares, par exemple, qui a été une immense comédienne, était quelqu'un, je pense, qui avait un tel tempérament qu'il fallait la canaliser. C'était sûrement un des travaux du metteur en scène, une des tâches du metteur en scène. Moi, c'est... Bon, il faut plutôt me faire sortir de... Mais par rapport au texte, j'ai un respect du texte, en général. Et puis, encore une fois, le partage fait que on est deux, on est trois, on est quatre... à définir une conception d'une œuvre et chacun fait des concessions. Plus on a d'expérience et plus le travail est rapide parce qu'on sait où aller directement. Enfin, moi j'ai entendu quelquefois des étudiants s'engueuler devant moi, se lâcher dans une classe de musique de chambre. Mais qu'est-ce que vous foutez? Mais c'est pas juste. Nous, les vieux, quand on travaille ensemble, est-ce que tu trouves pas que là, on pourrait peut-être... Bon, voilà, non, mais le respect de l'autre et finalement l'efficacité. Et puis surtout, savoir où aller. Moi c'est, ça a été une de mes frustrations d'enseignant. Je rêve d'être dans un coin invisible et d'écouter comment travaille, je parle là de la musique de chambre surtout, de voir comment se font les échanges. Combien de fois j'ai pensé de ça, mais qu'est-ce que je voudrais entendre travailler sans qu'on sache que je suis là, oui. Et l'idée, l'imagination, l'invention.
Compositeur dont on n'a pas parlé du tout encore, c'est Jean-Sébastien Bach.
Oui, que dire ? J'aime énormément sa musique. Je relis régulièrement les préludes et fugues. J'adore les passions. C'est peut-être pour moi le seul qui puisse être joué au clavecin et au piano. Je ne suis pas très... Encore une fois, j'ai fait du clavecin, mais assez mal, et puis après, je me suis mis à aimer profondément l'instrument. Je ne suis pas très favorable à Rameau et Couperin, je trouve, au piano, enfin, je trouve, même malgré les versions intéressantes qui ont été faites, mais je trouve que c'est quand même une écriture qui est typiquement claveciniste, d'ornement, qui a vraiment une adéquation à l'instrument, que je ne retrouve pas quand c'est joué au piano. Et Bach, encore une fois, oui, c'est un... Je pense, enfin, il m'est arrivé, c'est pas évident de faire travailler du Bach, mais il m'est arrivé de dire à des étudiants, mais écoute, j'ai l'impression que tu te mets en prière avant de, tu sais, Bach, il a eu 22 enfants avec deux femmes, c'était sûrement un très bon vivant, t'es pas obligé de faire une prière ou un signe de croix avant de jouer, c'était quelqu'un de très inventif, c'est prodigieux d'imagination, cette littérature.
Si vous pensez à vous-même, Christian Vivaldi? Est-ce qu'il y a des moments où, dans le concert, dans le récital, dans le partage, vous-même étant acteur musicalement à ce moment-là, vous avez été submergé ou dépassé?
Non. Baudelaire, Schubert est peut-être le compositeur avec Mahler qui m'entraîne le plus loin, enfin jusqu'à quelque chose qui me dépasse complètement. Je parle pas d'au-delà puisque je suis athée, mais... Le voyage d'hiver en scène, mon problème à chaque fois, c'est de justement de résister à ça. Alors je serre les dents, je me dis non, ce soir je me laisserai pas avoir, et je suis laminé en fin de cycle. C'est peut-être encore pire avec La Belle Meunière d'ailleurs, parce que ça commence dans la joie, dans l'enthousiasme, et puis progressivement le drame arrive. Et j'ai un souvenir très précis qui est très vif. C'était précisément une semaine où je faisais le théâtre de la ville avec Krivine, tous les jours à 6h30, hein. Et un des soirs, j'ai couru à Gavot, accompagné de Voyage d'hiver, un baryton qui s'appelait Matthias Vogel, qui était un des barytons avec Udo Reidemann, avec qui j'ai beaucoup travaillé dans les années 70. Et Jacques Longchamp était à l'époque critique au Monde, on l'admirait tous beaucoup parce qu'on savait que c'était un personnage honnête. Et Longchamp était là, fait un papier qui sort deux jours après, je sais plus ce qu'il disait en bref, mais bon, et en terminant, quelque chose comme au piano... Christian Vivaldi, excellent comme toujours, semblait toutefois paralysé par l'émotion au bord du gouffre. J'ai trouvé ça extraordinaire. Il avait senti ça, enfin j'étais... Ouais. Mais moi, l'insoutenable, c'est très curieux, parce que j'idolâtre Mozart, hein, les opéras de Mozart, et ça me bouleverse profondément, et ça me met pas dans l'état où peut me mettre un Lied de Schubert ou un mouvement de symphonie de Mahler. C'est très curieux, je ne sais pas pourquoi. C'est une question de sensibilité. Mais je me suis interrogé là-dessus. Je connais bien le paradoxe sur le comédien de Diderot. J'en ai parlé d'ailleurs à des étudiants souvent. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais on ne peut pas nier le fait qu'un interprète est à la fois acteur et spectateur et qu'il faut à la fois... Pour laisser l'émotion parler, se faire, mais contrôler aussi. Enfin, et parallèlement, le fait qu'on travaille des œuvres, on les construit, on les organise, des mois quelquefois. Et sur scène, il faut donner l'impression que la musique jaillit comme si l'interprète lui-même l'écrivait, la composait. En fait, c'est très complexe tout ça.
On referme cette série avec l'irrésistible adagietto de la 5e symphonie de Mahler, dirigée par Maris Jansons. Réalisation de ces grands entretiens de Christian Vivaldi, Olivier Guérin. Prise de son, Arthur Gerbeau. Mixage, Valérie Lavalard. Attaché de production, Flora Sternadel. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste. Thank you.
à réécouter sur francemusique.fr.